parti, on joue la prolongation. Alors, ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition dont joue la prolongation. Alors, c'est forcément avec le cœur un peu lourd et une grosse pensée pour tous les Israéliens que je vous présente cette émission ce soir. Si c'est toujours un plaisir pour moi de parler football, ce soir, je dois vous le dire, j'ai un peu moins le cœur et la tête à ça. Je suppose qu'il en va de même pour une grande partie de nos auditeurs. Mais quand même, on espère que pendant les 57 minutes qui vont venir, nos discussions qui peuvent paraître frivoles et inutiles parfois, et surtout dans les circonstances actuelles, on espère que ces discussions vont quand même vous permettre de vous changer les idées, de penser à autre chose. Avec moi, ce soir, trois chroniqueurs. Habituellement, je les présente en jouant l'hymne de leur club de cœur, mais ce soir, j'ai décidé de changer un petit peu la tradition et de jouer les hymnes des deux clubs israéliens qualifiés en Coupe d'Europe cette saison. Des hymnes qu'on risque peut-être d'ailleurs de ne plus entendre d'ici à la fin de la saison. On reparlera d'ailleurs dans l'émission des décisions qui ont été prises par l'UEFA concernant les matchs qui doivent se dérouler en Israël. On va commencer. Alors ça, vous l'avez peut-être pas ou l'aurez peut-être reconnu, c'est l'hymne du Maccabi Tel Aviv Football. Comme tous les lundis, il va nous apporter son sens de l'analyse de ce qui se passe sur et en dehors du terrain. C'est le fondateur de l'agence de marketing sportif Sportimize. Il s'agit bien sûr d'Alexandre Demeter. Salut Alex, comment vas-tu ?
Salut Sam, ça va, on dirait ce qui se passe. Mais très belle ligne, on peut penser à un match amical quand on avait joué contre les Coupes. Très chouette équipe. Toujours de bons souvenirs.
Eh ben, écoute. Voilà, un petit coup de l'hymne du Maccabi Tel Aviv. Le deuxième club qualifié en Coupe d'Europe, c'est le Maccabi Haïfa. Alors, pour le Maccabi Haïfa, on va passer à notre deuxième chroniqueur. C'est l'ancien entraîneur de la section féminine de l'Union Saint-Gilloise. Il a été invaincu durant les deux saisons au cours desquelles il a été à la tête de l'équipe. Il s'occupe aujourd'hui du développement économique du Femina White Star. C'est Thomas Otuchevski. Salut Thomas, comment vas-tu ?
Ça va, Maccabi Haïfa, je crois que c'est un mauvais souvenir pour les supporters parisiens.
Ouais, c'est pas terrible.
C'est une page très sombre de...
Ah oui, moi je pensais au dernier match, t'as raison. Oui. Oh là là, il y a longtemps. Oh là là.
Ouais. Qui avait plongé le club dans...
C'est vrai.
Dans la pénombre pendant quelques années.
C'est
et
vrai.
Dans les tribunes.
Exactement. Ouais, absolument, il y avait eu des débordements dans les tribunes. Pour notre troisième chroniqueur, bon, pour lui, je ne vais pas sacrifier à la tradition parce que on va quand même pas lui enlever ce plaisir, hein, vu le parcours de son club actuellement. Il s'agit, vous l'aurez reconnu, on va rester fidèle à la tradition pour ça. Il s'agit évidemment de notre mauve préféré, Henri Daniel. Salut Henri, comment vas-tu ?
Ça va, un week-end compliqué, mais...
Mais les mauves t'ont au moins apporté un peu de baume au cœur.
Un petit peu.
Bon.
Je prends.
Bon, et est-ce que tu as l'impression que la prophétie du grand Jojo, qu'on va entendre dans un instant, Anderlecht champion, tu crois que ça peut être pour cette année ?
Ça peut, mais j'ai pas envie de brûler les étapes. On vise le top 6.
C'est bien. C'est bien d'être. C'est bien d'être raisonnable et de vouloir aller faire chaque chose en son temps. Eh ben, on est content, on va démarrer cette émission, on va faire un tour complet de l'actualité footballistique de la semaine, avec notamment les Coupes d'Europe qui ont repris leurs droits. On va parler également bien sûr des championnats nationaux, et en premier lieu de la Jupiler Pro League, qui nous a offert la 11e journée, ce week-end. On parlera aussi des principaux ou de quelques-uns des principaux matchs des championnats européens. On parlera avec Alex Marketing au cours de la Minute Sportimize. Alex, tu nous fais un petit teaser, tu nous donnes quelques indices sur ce dont tu vas parler tout à l'heure.
On va parler betting.
Betting.
Tout à fait.
On n'en saura pas plus, mais on attend ça avec impatience.
J'ai connu une bêtise dans le temps.
C'est peut-être la même, écoute, pas sûr.
Écoute, je ne sais pas ce que tu fais de ton temps libre, mais...
C'était avant que je marie.
Chacun...
Avant le mariage, bien
l'activité.
Allez, c'est le coup d'envoi, et comme chaque semaine, eh bien, depuis le retour de l'émission, dans cette nouvelle saison... On va commencer par le Belge de la semaine. Le principe est simple. Chacun d'entre nous a choisi son Belge de la semaine. Et il va nous en dire quelques mots. Henri, à qui as-tu pensé comme Belge de la semaine?
À Brecht de Jager. C'est un nom qui va vous surprendre. Mais il a marqué un but zlatanesque, on va dire, à Zlatan Ibrahimovic. Il joue à Charlotte en MLS aux États-Unis. Et il a marqué une espèce de volée talonnade. Retourné, ça, c'est assez impressionnant. Et c'est un garçon qui était donc qui a fait ses classes à Courtrai,
oui.
Qui a été transféré à la Gantoise, qui a été champion de Belgique avec la Gantoise, qui a été finaliste de la Coupe de Belgique perdue avec la Gantoise. Il est parti à Toulouse.
Il
a été champion en Ligue 2. Il a gagné l'année dernière la Coupe de France. Et ce garçon, en fait, au moment où il était aux portes des Diables Rouges, a été blessé gravement dans sa période gantoise. Et donc il a 32 ans maintenant. Et moi, j'ai souvenir de lui dans cette saison, évidemment, où tout tournait bien, évidemment, quand on est champion. C'est un sport d'équipe, donc quand on est bon et que tous les coéquipiers sont bons, c'est porteur. Mais je pense que ce garçon est un peu passé à côté de sa carrière. Mais,
et donc, il a marqué un but zlatanesque.
Je vous invite à aller voir ça sur les réseaux sociaux, c'est spectaculaire.
Et notez bien aussi que la défense adverse, ils défendent comme les U14 de la Forestoise, donc...
Toujours
c'est la MLS,
un petit tacle bien senti.
Pour la Forestoise.
C'est quand même mon belge de la semaine.
Oui, tu as bien raison. Non, mais je suis assez d'accord. Et c'est un très bon choix pour lui d'aller là-bas à Charlotte. Et il faut savoir, Charlotte, c'est un club qui existe depuis 2-3 ans, qui joue dans un stade immense. Et ils avaient réussi la prouesse, 68 000 personnes pour leur premier match. Donc ça vit vraiment dans la ville à côté des Hornets de basket. Le foot s'est vraiment fait une place aussi.
Et ben, c'est un joueur. Je pense qu'il a un défaut de notoriété, mais c'est un bon joueur.
C'est un bon joueur pour un club qui veut avancer. De là à être Diable Rouge avec l'équipe qu'on avait en 2016, 17, 18, je doute qu'il aurait eu sa place, à part à côté du banc ou en tribune, mais on ne sait jamais. Oui.
Très bien, bah maintenant on va passer au Belge de la semaine de Thomas. Toi, tu as pensé à qui, Thomas?
À Karel Gerhardsz.
Ah!
Ah oui, parce que on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui est sorti par la petite porte à l'Union, alors qu'il avait fait quart de finale, qu'il manque le titre à 10 minutes et quelque chose d'assez inouï. Il sort par la toute petite porte, vient communiquer, mais bon, on est assez habitué de la sortie des coachs par la petite porte, là pour l'instant à l'Union. Ceci étant dit, c'est très bien de le voir rebondir à Schalke.
C'est ça, c'est à Schalke Nullfier qui
en Bundesliga 2, mais bon, on se rend pas compte, la deuxième division allemande, il y a des clubs énormes. Il va jouer dans un stade
incroyable,
Veltins Arena, qui est un stade gigantesque.
Gelsenkirchen.
Et si ça marche, et si ça marche pour lui, ça peut être un boost dans sa carrière, donc. C'est mérité, il avait fait du gros travail, il avait capitalisé sur ce qu'avait fait Matsu, mais voilà.
Il a su bien rebondir, et c'est vrai que c'est un stade assez incroyable, ce stade, la Veltins Arena. Et comme tu le dis, la Bundesliga 2 n'a rien à envier à certains championnats, première division de beaux championnats. Alex, à qui as-tu choisi?
On ne s'était pas concerté, donc j'avais pris Karel aussi pour avoir travaillé 3 ans avec lui, mais... Thomas était plus rapide. Mais du coup, j'avais un deuxième choix, et c'est un très bon ami de Karel, justement, et c'est Sten Stenen, l'ancien gardien des Diables Rouges, De Bruges, forcément, qui est aussi sorti par la petite porte, mais là, c'est de sa propre faute,
oui.
Avec ses histoires sur Internet. Mais il y avait un fait marquant. Il est donc devenu entraîneur du Patro Maas Mechelen, qui a été promu en D1B cette année. Et la particularité du Patro, c'est qu'ils ont perdu ce week-end, 0-2 face au FC Liège, qui fait une saison exceptionnelle pour l'instant. C'est du très gros travail de Gaëtan Englebert, qu'on connaît aussi de Bruges. Mais le Patro, en fait, était 1330 jours invaincu dans son stade, sauf par une équipe qui a été y gagner, le club de Bruges, en coupe. Mais donc en championnat, 1330 jours, ça fait 3 ans et demi qu'ils n'avaient pas perdu dans leur stade. Et donc ce week-end, ils ont perdu. Donc quand même, chapeau à Stan Stellen pour cette série exceptionnelle. Il bat Thomas presque. Hein, donc,
D'ailleurs, le Patro, pour faire un petit aparté, qui investit très fortement dans sa section féminine, beaucoup de clubs de Pro League devraient s'en inspirer. Que ce soit ceux qui le font... à moitié, ou ceux qui ne le font pas du tout.
Parce que certains clubs, c'est pas trop ça.
Oui, certains le font même pas.
Bon, eh ben, bon, coup de chapeau à eux, coup de chapeau à lui, même si je constate que tu le choisis en Belge de la semaine, juste la semaine où il perd son record d'invincibilité, un petit tacle comme
si
ça.
Si on fait l'inverse, on doit le prendre toutes les semaines.
C'est vrai. Au moins, ça permet de mettre son travail en avant. Moi, et puis s'il s'agit de, je vais terminer. Pour le Belge de la semaine, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler non pas d'un joueur belge, mais d'un joueur d'un club belge, en l'occurrence d'un joueur d'OHL. J'aimerais vous parler plus en détail du premier buteur louvainiste, un joueur ce week-end, un joueur qui à coup sûr se souviendra toute sa vie de ce 7 octobre 2023 et pour cause. Alors que le Cercle de Bruges a pris l'avantage de la troisième minute, OHL bénéficie d'un corner une minute plus tard. Celui-ci est tiré de la gauche par l'Islandais Jon Dagur Thorsteinsson, qui adresse une belle passe, un beau corner tendu au premier poteau. Et dans une forêt de joueurs, le ballon est repris et expédié au fond des filets brugeois par un joueur louvainiste venu de l'arrière, auteur d'une course intelligente, d'un saut au timing parfait et d'un coup de tête puissant. Le premier buteur louvainiste semble faire montre d'une joie plus que mesurée. Et on va rapidement comprendre pourquoi le premier buteur louvainiste de la soirée, qu'on a eu du mal à distinguer dans un premier temps, les commentateurs les premiers, est en effet l'Israélien Raz Shlomo, défenseur central arrivé cet été du Maccabi Netanya. Alors le visage grave et fermé, le joueur de 24 ans, originaire d'Ashkelon, court le long de la ligne de but vers le point de corner. Ses deux bras sont tendus sur les côtés, comme si ses deux bras voulaient aller plus haut, comme il est d'usage lorsqu'on marque un but. Mais ils ne le peuvent sans doute pas. Il pointe ensuite un doigt vers le ciel, il lève ses deux bras, les paumes ouvertes, dans ce qu'on pourrait voir comme une prière, ou en tout cas un moment simple, moment de solennel, moment de recueillement. Et enfin, il forme un cœur avec ses doigts, le regard fixé vers les cieux. Ses coéquipiers accourent, le congratulent, l'enlacent, lui adressent une tape amicale sur la tête. Tous ont une mine réjouie, tous sauf lui. Car si le public, les commentateurs, voire ses coéquipiers ne le savent pas ou n'en ont que faire, lui ne peut pas ignorer à ce moment-là ce qui se passe à 4500 km de Bruges, chez lui, en Israël. Il est en effet 16h05 et le bilan est alors d'au moins 100 morts et plus de 800 blessés. Joe Biden vient de faire sa première déclaration de soutien total à Israël, tandis que Benjamin Netanyahou prévoit quant à lui une guerre de longue haleine. Alors loin du Jan Breidel Stadion, Raz Shlomo, ce jeune homme de 24 ans pense certainement à ce moment-là à sa famille, à ses amis et à tous les jeunes de son âge qui maintenant ou dans quelques heures vont être appelés à défendre leur pays. Alors avec tout cela en tête, que peut bien signifier un ballon envoyé au fond des filets, quand bien même s'agirait-il de son premier but marqué pour sa nouvelle équipe à l'occasion de son premier match sous ses nouvelles couleurs et après seulement 4 minutes de jeu. Alors, après l'occasion de sa première apparition sous le maillot d'OHL, Raz Shlomo a réalisé un bon match, compte tenu des circonstances et de l'état psychologique dans lequel il devait se trouver. Placé à gauche d'une défense à trois, il s'est montré sérieux et propre dans ses interventions. Il n'aura d'ailleurs commis aucune faute au cours des 90 minutes qu'il aura passées sur la pelouse brugeoise. Son prochain match avec OHL est prévu le dimanche 22 octobre à 19h15 face à Saint-Trond en clôture de la 11e journée de Jupiler Pro League. On espère que d'ici là, mais je crains que ce soit un vœu pieux, Raz Shlomo n'est à se soucier uniquement de ce qui se passe sur les rectangles verts et pas ce qui se passe en Israël. Je crains que ce soit un vœu pieux, mais en tout cas, bienvenue à lui, Baruch Haba, comme on dit en hébreu. Il aurait sans doute souhaité que ça se fasse dans d'autres circonstances, mais voilà, pour son premier match sous ses nouvelles couleurs et après seulement 4 minutes de jeu, il est parvenu à marquer un but. Une pensée pour lui et une pensée pour les deux autres joueurs israéliens du championnat de Belgique, Jonas Malédé qui joue à Malines et qui est blessé actuellement, et Omri Gendelman qui joue à Genk et qui est rentré une minute lors du match que les Genkois ont disputé face à la Gantoise. Et donc, ben voilà pour nos Belges de la semaine. On va rester un instant encore sur un sujet un petit peu sérieux et grave. On va parler bien sûr dans quelques instants de ce qui se passe, ce qui s'est passé sur les terrains. Mais avant ça, on va parler un instant de football israélien. À l'heure actuelle, le football et le sport en général sont bien sûr la dernière priorité du pays. Des matchs étaient prévus en Israël et fort logiquement, ils ont été reportés par l'UEFA. L'UEFA a pris la décision de reporter d'abord la rencontre entre Israël et la Suisse qui était initialement prévue jeudi au Bloomberg Stadium de Tel Aviv. À la lumière des conditions de sécurité actuelles en Israël, l'UEFA a décidé de reporter tous les matchs prévus dans ce pays au cours des deux prochaines semaines. Les nouvelles dates seront confirmées en temps voulu. C'est ce qu'il est indiqué dans le communiqué officiel qui a été publié hier soir. Les matchs des U21 et des U17 de la sélection israélienne ont aussi été reportés. Quant à la rencontre entre le Kosovo et Israël du 15 octobre, qui doit être disputée au Kosovo, on attend encore une décision officielle. L'UEFA a indiqué qu'elle se réservait quelques jours supplémentaires pour évaluer si le match de qualification européenne Kosovo-Israël pourrait avoir lieu à la date initialement prévue du 15 ou si un report est nécessaire. Enfin, l'UEFA indique qu'elle continuera à suivre de près la situation et restera en contact avec toutes les équipes concernées avant de prendre des décisions sur des nouvelles dates ou sur les changements potentiels d'autres rencontres à venir. Tout ça, ça concernait les sélections nationales puisque c'est l'actualité des prochaines semaines. Et à noter que l'instance européenne ne s'est pas prononcée sur les matchs de Coupe d'Europe des clubs israéliens qui sont prévus le 26 octobre prochain. Le Maccabi Haïfa est censé se déplacer à Villarreal. Quant au Maccabi Tel Aviv, il doit en principe lui recevoir le club ukrainien de Zorya. Affaire à suivre, mais voilà, on attendra de connaître de savoir ce que l'UEFA décide. Alex, ouais. Bah,
comme Zorya, il joue aussi dans un autre stade. Il joue à Gdańsk, je pense, en Pologne.
Ouais, absolument.
Tout porte à croire que les clubs israéliens pourront peut-être jouer leur match comme ils l'ont déjà fait à Chypre dans le temps, je pense.
Voilà.
Donc, c'est une décision tout à fait logique et cohérente pour continuer et pas démembrer presque les compétitions européennes.
Tout à fait. Et donc, voilà, il y avait également, je crois, des tournois de jeunes qui étaient prévus, dont un avec une équipe de Belgique je crois que c'était un U14 qui devait se tenir cette semaine, évidemment. Tout cela est mis sur pause. Ça n'est pas du tout la priorité. Voilà, on va essayer de revenir maintenant au jeu. Et on va, comme je le disais dans l'introduction, essayer de penser à autre chose et de parler terrain. Et quoi de mieux que de parler. Je ne sais pas s'il doit y avoir sûrement mieux pour parler très beau jeu, mais en tout cas, voilà un bon moyen de reparler terrain avec la Jupiler Pro League. Et on va débuter, si vous le voulez bien, parce que je nommerai le Roni dei Latico, le Standard contre le club de Bruges. L'ancien club du Norvégien Roni Deila, le Standard, recevait son nouveau club, le club de Bruges. On va rappeler peut-être, Alex, tu avais été assez virulent à l'époque, enfin en tout cas, tu avais noté que ça n'avait pas été très élégant la manière dont Roni Deila avait été recruté, puisque c'était avant la fin de la saison.
Oui, pas nécessairement.
Après, c'était pas toi, peut-être, qui avait été le plus virulent, en tout cas.
J'ai pas été très virulent. Après, il faut tenir compte du contexte à l'époque du Standard. Roni Deila venait de faire une excellente saison. Les playoffs 2 se déroulaient un peu moins bien. Bruges l'a contacté. Bruges, qui a fait une saison dramatique. Et bah, il y avait une clause dans le contrat qui stipulait que pour 2 millions, Roni Deila pouvait partir dans n'importe quel autre club, Belgique inclus. Donc, je ne vois ni sur la forme, ni sur le fond où est le problème, ni avec Deila, ni avec Zinckernagel, que le Standard avait un droit de préemption dessus. Ils ne l'ont pas pris. Et Zinckernagel est parti dans un autre club, après un passage éclair à l'Olympiakos, je pense. Donc
effectivement, c'est Didier, me semble-t-il, qui avait...
La forme était quand même... Il aurait pu finir les playoffs 2 avec le Standard.
Le ça, timing, c'est... peut-être. Mais ouais, alors
après, on ne sait pas ce qui se dit en interne au Standard, etc. Il aurait pu finir les playoffs 2 avec le Standard. Après, qu'un mec aujourd'hui parte du Standard pour Bruges, qui est en ce moment.
Ouais,
le meilleur club belge depuis 10 ans.
Désolé. Tout à fait, non, 15 ans.
Là, c'est sûr.
Donc, je ne vois pas où est le problème. Si le Standard se considère dans les meilleurs clubs belges, il faut regarder les résultats. Hein.
Le problème était le timing et l'annonce de Deyla lui-même qui avait, à Westerlo, si je me souviens bien,
absolument,
qui avait parlé aux journalistes, qui avait dit qu'il n'y avait rien du tout. Et deux jours après, il avait signé, ou en tout cas, à ce moment-là, il était brugeois. C'était ça le problème,
oui, plus
que
la forme que
Interclub,
en fait.
Etc. Ah ouais. Après, les supporters du Standard sont frustrés par ce choix, et je comprends tout à fait, surtout qu'il leur a donné beaucoup d'espoir dans une première année avec 7-7-7 Partners. Et quand tu vois ce qui se passe cette année, à part le match de hier peut-être, c'est pas exceptionnel. Donc,
oui, et puis c'est ça, je crois qu'il y avait la frustration des Liégeois, surtout qu'il semblait avoir établi un lien assez de proximité assez important avec les supporters.
Ça,
on
il
le
fait
voit.
Partout.
Voilà, c'est sa manière. Donc il avait été vu buvant des bières avec des supporters. Et puis c'est ça, surtout deux jours avant, il avait dit non, il n'y a aucune discussion.
Mais ça, c'est sincère, parce que c'est une personne qui est intègre et sincère. Quand il est avec des supporters du Standard, quand il discute avec eux, quand il embrasse le blason, etc., c'est sincère à ce moment-là. Mais enfin, il ne va pas rester sa vie entraîneur
non,
du Standard.
Non, peut-être que deux jours avant, c'était moyennement sincère. Non, il y a peut-être eu des discussions déjà. Il n'a peut-être pas posé l'encre. L'encre n'avait peut-être pas séché sur le contrat.
Je sais qu'il y a eu des discussions début avril au château de Bever de Bad Verag avec Karel Gerhardt, avec Ronny Della et avec d'autres entraîneurs potentiels. Donc, il y en a eu, mais c'est logique. Bruges ne va pas attendre la fin de saison pour
bien
commencer
sûr
les discussions.
C'est la communication.
Hein. Non, et puis...
C'est la communication qui était...
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça, c'est la forme. Mais après, que le mec soit hyper investi, on reproche un peu beaucoup aux joueurs et aux entraîneurs d'être des mercenaires, etc. Mais si on regarde le côté inverse aussi, les clubs sont très froids. Alex et moi, on sort de clubs professionnels avec toutes les histoires qu'on a entendues et qu'on connaît parfois. C'est d'une froideur, et moi je vous le dis, quand on est coach, mon histoire, mais aussi l'histoire de d'autres coachs dans d'autres clubs, que ce soit féminin ou masculin d'ailleurs, clubs professionnels, eh ben, la leçon que vous en tirez, c'est que vous, oui, quand vous êtes dans un club, vous avez le droit d'être passionné, d'être en fusion avec les supporters, mais qu'à la fin des fins, ce qui compte, c'est vous, et il faut être hyper froid, et voire même glacial. Et Deyla, il le vit... au Standard et il le vit avec passion. Je suis sûr, comme le disait Alex, je pense que c'est sincère.
Ouais.
Mais au moment de sortir, il est froid parce qu'il sait que pour lui, demain, 4 mois plus tard, si au Standard ça se passe mal, la statue,
elle sera déboulonnée. Voilà,
exactement.
Ouais, ouais.
Donc il faut aussi mettre ça en contexte et le foot pro peut être parfois très cruel des deux côtés.
De toute façon, c'est tout à fait ça. En tant que coach qui a des succès, ou bien on te met dehors un jour ou un autre, ou bien tu pars toi-même. Il n'y a pas d'autre issue.
Oui, ouais. Non, c'est vrai que c'était, comme on l'a dit, la communication, le timing qui avait été un petit peu douteux et qui avait pu frustrer les supporters du Standard.
Mais big up aux supporters, ils n'ont pas fait de tifo scandaleux, criminel ou quoi que ce soit. Donc,
mais c'est pas big up, c'est normal.
Ils ont encouragé leur propre.
On va pas dire bravo quand ils le font pas, parce que quand ils le font.
Non, mais tu connais le contexte. La semaine avant, qu'on en parlait tous les jours, qu'est-ce qui va se passer. Finalement, ils ont encouragé leur propre équipe et c'est exactement ça qu'on doit voir et qui doit se passer.
Et ces encouragements ont permis sans doute à leurs joueurs, aux Rouges, de l'emporter. De Buzyn, qui veut commencer. Allez, Alex, on va te torturer un peu.
C'est pas torturé. Ah, Bruges n'a pas son ADN qu'on connaît. Et ça fait depuis le passage de la deuxième année de Clément que Bruges a perdu cet ADN, que Bruges a cette suffisance lors de chaque match. Et c'était parti au début de saison. Et depuis le match de Sassouna à domicile, quand le Bruges est mené 0-2, éliminé et qui revient à 2-2 qualifié, c'est suffisant, c'est nouveau réinstallé en jouant à la baballe, en se disant « Oh, bon, tout va bien se finir », etc. Et ça ne se finit jamais bien.
Alors, ils prennent un but assez rapidement dans le match. Un joli but.
C'est deux relances de merde, on va dire. Une, c'est Mignolet, l'autre, c'est Skovolsen. C'est des pertes de balles tout à fait stupides. Et si on revient en arrière, que ce soit contre Charleroi, contre Saint-Trond, contre, j'ai perdu le fil, mais contre Beşiktaş, c'est systématiquement les mêmes les mêmes pertes de balles à moins de 30 mètres du but qui sont payées cash. Parce que le Standard a eu deux occasions sur tout le match, allez, trois.
Ouais, mais aujourd'hui, en fait, on regarde Bruges peut-être avec les yeux d'il y a 4 ans. Mais aujourd'hui, à Bruges, c'est qui les joueurs de classe? Alors, il y a Mignolet, il y a Van Aken. Mais alors, comparé à 4 ans, on peut mettre les deux 11, je suis sûr qu'on rigole. C'est un peu comme mettre le 11 d'Anderlecht aujourd'hui et le 11 d'Anderlecht il y a deux ans. Ah ouais, on rigole, mais...
Pour moi, le joueur de classe, c'est Skovolsen. Skovolsen, ouais. je fais souvent le parallèle, c'est comme quand on joue, ceux qui connaissent, on joue à FIFA, tu joues avec un joueur de 90 contre une équipe de 60, tu passes tout le monde en vitesse et tu marques d'où tu veux. Et ça, c'est ce que Skovolsen est en train de faire, en fait.
Oui, mais si après, autour, c'est...
Ouais.
C'est faiblard, quoi. Enfin,
et puis, il va aller avec Yannon toutes les semaines, mais il est... Il commence à avoir son âge, il n'a pas le... Hans Van Aken.
Il était lent depuis toujours.
Il a toujours été lent, et... Cette année, il faut dire, il est très très bon. Il y a eu pendant deux ans, c'était très moyen, voire médiocre. Et là, cette année, il est quand même très bon. Il est au bon endroit, au bon moment. Il essaye de motiver ses troupes. Mais tu as une suffisance générale. Et voilà, quand finalement ton meilleur transfert, c'est de Kuiper qui revient de Sturlo, là, tu te poses des questions.
Oui, c'est vrai que les sorties des joueurs, plutôt les entrées, les sorties ont été réussies. Il y a eu quelques ventes. Et puis, par contre, tu dirais que le recrutement a été un petit peu léger ?
Je ne pense pas qu'il est léger. Un Vetlesen, c'est un des meilleurs joueurs de Norvège. Un Zinkernagel, c'est un des meilleurs joueurs de Belgique. Donc, ton recrutement n'est pas léger. Mais tu as, pour moi, blesse en défense. Tu n'as pas un défenseur.
Et Thiago, c'est quand même léger.
Thiago, c'est léger. Quand tu vois Amoura que l'Union paye 4 millions et que Thiago, tu le payes le double et qu'il met 3 minutes et demie pour se tourner et pour contrôler une balle, oui, forcément.
Ouais, mais ça manque. Il y a des joueurs qui manquent d'épaisseur, en fait. Est-ce qu'il y a un... On l'aime ou on l'aime pas pour la personnalité, mais il n'y a pas un mec comme Noah Lang aujourd'hui à Bruges. Alors, on pouvait le détester, hein, mais il avait une certaine épaisseur et que quand il avait décidé de jouer et de ne pas faire sa mauvaise tête...
Et Noah Lang, il y avait... Comment il s'appelle ?
De Ketelaar.
Non, celui qui partait à Westerlo, l'Hollandais. Comment il s'appelle ?
L'Hollandais qui partait à Westerlo.
De Bruges, alors là, aucune idée, mais en tout cas, ça manque d'épaisseur. Je trouve
qu'il y a capitaine de Bruges.
Hein. Et son nom, Vormer.
Vormer, voilà.
Ah, mais oui, il est à Wargame.
Azult.
Ah, oui, Azult, pardon, pas.
Oui, Azult.
Cette saison, il y a le jeune Nussa, mais il est blessé actuellement et puis il reste très jeune. Ils l'ont recruté très jeune.
Non, Nussa, il a joué. Hein.
17 ans. Enfin, il est revenu. Mais il a été blessé. Il est entré en cours de jeu, effectivement. Buchanan a été blessé aussi. Il a été replacé.
Il y a un autre naufrage, c'est Boyata. Ça fait peur. C'est terrible.
Boyata, c'est un ramassis de morceaux de bois que tu enfin une embarcation. Ça n'a jamais. C'est logique qu'il y ait un naufrage. Tu le savais dès le début, ça.
Oui, et puis on avait parlé de Kasper Nielsen la dernière fois, qui ne parvient sans doute pas à trouver le contexte dans lequel il s'épanouirait au mieux.
C'est un top exemple des joueurs, de mecs qui s'épanouissent dans un club et qui disparaissent ensuite dès qu'ils partent de leur club, de leur cocon. Et en France, on a plein d'exemples comme ça, d'un mec qui performe et qui est très très fort une année. Donc comme il est très fort, il explose, il part. L'exemple, c'était Steve Savidan. Pour ceux qui se souviennent, Steve Savidan à Valenciennes. Moi, j'allais souvent le voir au set. C'était incroyable, Steve Savidan à Valenciennes. Alors le mec, incroyable. Équipe de France, isable. Il part et patatras.
Ouais.
Parce que le mec, dans le cadre valenciennois, était très fort. Il part, et c'est pareil pour Nielsen, je pense. Il était très bien dans le cadre unioni. C'était la maison avec un coach.
Mais moi, j'ai le souvenir qu'il avait bien démarré à Bruges.
Ouais, mais c'est le foot, c'est la durée.
Et si on parlait un petit peu on a parlé des carences ou des problèmes brugeois, mais côté standard, qu'est-ce qui vous a plu dans le match remporté? Ils ont eu du ressort puisqu'ils ont pris un but à la 85e et ils réussissent à l'emporter en marquant la...
Mais l'intensité par rapport au match qu'il y avait en début de championnat du Standard, qui était d'une mollesse impressionnante. Au moins, Oufkens a réussi à leur botter le derrière et au moins qu'ils se battent.
Ils se battent, ouais.
Le début de saison, c'était pathétique. On avait parlé avec le début de saison de Charleroi où on avait l'impression que Charleroi n'avait pas de chance.
C'est ça.
Réussite, mais il y avait ce qu'il fallait pour que ça passe. Et le Standard, il n'y avait rien. Rien de prometteur, en tout cas.
Oui, mais c'est à voir. Hein, parce que c'est sur un match. C'était le retour de Deyla. Peut-être que le contexte... exactement. Le contexte a fait que les mecs, ils se sont dit, allez, c'est le match. On verra dans 4-5 journées où ils en sont. Parce qu'au final, ils ne sont pas si loin que ça du top 6.
Cela dit, tu as raison, mais ils sont invaincus depuis 5 matchs. Ils ont enchaîné deux... Sur les 5 derniers matchs, ils ont fait 11 points. Ils ont fait 11 points, soit un de moins que l'Union. Donc c'est un rythme de champion.
Ce qui était donc très bien dans la dernière émission de défendre Karl Hofkens.
C'est ça.
Oui, mais après Karl Hofkens a montré de belles choses. Là, n'est pas de belles choses. On avait passé avec Bruges en Ligue des Champions aussi, mais il faut pas oublier, le début de saison était laborieux. Et puis ils ont été chercher trois joueurs le dernier jour du mercato qui font vraiment la différence.
Bon, donc vous n'avez pas grand-chose de super positif à dire sur le Standard. On l'aura compris. Et je vous propose qu'on passe avec toi en premier, Henri, au Mauve, à Anderlecht. Les joueurs. En Mauve recevait Malines, victoire 3-1.
Qu'est-ce en que... blanc,
il était... distant, voilà.
Qu'est-ce un, que... beau, un beau maillot vintage.
Tu ne l'as pas mis.
Il n'y en avait plus. C'était soldat, je pense.
Alors, qu'est-ce que ça t'a inspiré, cette victoire 3-1 contre Malines?
Mais c'est la première fois qu'il gagne deux goals d'écart. C'est déjà.
On se satisfait de ce qu'on peut.
C'est ça, parce que jusque-là, le numéro était pas mal critiqué sur le fond de jeu. Je pense que la critique est encore valable. Ils gagnent 3-1, et heureusement, ils font peur, 2-0, ils sont remontés 2-1. Sardella, de nouveau, qui a vraiment la poisse. Il est sur toutes les actions, sur tous les goals encaissés.
Anderlecht a un peu la tête de l'Antwerp de l'année dernière. Enfin, à la différence près du coach, qui est quand même pas une petite différence, je pense que Riemer est plus là parce que son copain est directeur sportif. Ceci étant, ils ont beaucoup plus d'expérience sur le terrain que l'Antwerp l'année dernière. Où l'Antwerp l'année dernière, il y avait Alderweireld, mais là, il y a Hazard, il y a Vertonghen, il y a Ritz, il y a Delaney, il y a Schmeichel, Dupé sur le banc, même si ça pourrait leur créer des
Kasper,
problèmes, je pense,
là, sur les gardiens.
Oui, mais Dolberg n'a pas tant d'expérience que ça, en fait, au final.
Il a joué...
Mais en fait, ça ne joue pas bien. Non. Parce que quand on regarde les matchs, bon, on se dit, bon, c'est pas... il n'y a pas de quoi s'emballer. Mais ça gagne et ça engrange des points. Les playoffs, ça va être divisé par deux. Donc, on sait qu'une fois que les playoffs ont démarré, c'est quelque chose de nouveau. Et attention à la surprise, parce que s'ils restent dans la roue, Anderlecht, on ne sait pas. Enfin, ça reste... le club belge, et quand c'est comme ça, c'est des clubs qui, par essence, savent gagner des championnats en jouant mal, mais quand le moment arrive, quand il faut, l'odeur du sang est là, ils y arrivent.
Là, tu joues mal, mais qu'est-ce qui va se passer quand tu joueras bien?
Mais ils ont les joueurs pour jouer bien, je pense.
Peut-être pas l'entraîneur.
Oui, ils ont peut-être pas le...
C'est peut-être pas le coach. Mais ils ont des joueurs pour jouer bien. Il y a du talent. Léonie qui explose au bon moment, il est mature. Il est encadré par Ritz qui est je trouve fait un sale boulot, mais qui est précieux.
Ouais, ça, je trouve également avec le Ritz.
Largement plus Ritz que Diawara, par exemple, qui est pourtant un CV Naples, Roma, etc. Je pense que Léonie avec Ritz derrière lui, c'est parfait.
Et Thorgan Hazard aussi,
de son propre aveu, n'est pas physiquement au top, et il a besoin, son jeu nécessite une condition physique au top, ce qui n'est pas encore le cas.
Et puis des mecs qui étaient titulaires indiscutables à Anderlecht se retrouvent sur le banc, ce qui veut dire que quand ils rentrent, bon, il n'y a quand même pas des peintres sur le banc. On a Ndiaye ou Augustinsson en fonction. Bon, là, Augustinsson, on a l'impression qu'il est en train de gagner le bras de fer contre Ndiaye, mais il y a Diawara qui peut rentrer. Flip s'est retrouvé sur le banc maintenant. Il commence à avoir un banc de...
Amouzou.
Amouzou, en plus, en sortie de banc, je trouve qu'il a un profil hyper intéressant, car dynamiteur.
Pina but magique.
Ça commence à être intéressant quand même, ça commence à être solide. Donc s'il se cache, alors moi je veux bien que tout le monde il se cache et dise « Oh, peut-être, tu disais top 6 hein, en arrivant. » Ouais, bah, si Anderlecht aujourd'hui ne joue pas le titre,
il ne faut pas se cacher.
De toute façon, je pense que même des mecs comme Schmeichel et Vertonghen, ils sont là pour gagner le titre.
Et puis ils en ont vu
d'autres.
C'est à relativiser parce que ça ne durera peut-être pas toute la saison pour les autres clubs, mais Anderlecht va avoir moins de rendez-vous que les autres, puisqu'ils ne jouent pas la Coupe d'Europe. Donc au moins jusqu'en décembre, ils auront un calendrier plus simple que leurs adversaires directs.
Mais combien d'équipes auront encore un calendrier après?
C'est ça, voilà. Après, il faudra voir ça.
C'est bien parti pour Bruges, pour la Gantoise, pour l'Union aussi, je pense, au moins.
Oui, c'est ça. En tout cas, deux ou trois des grosses équipes.
Je ne vois pas l'Union dernière de son groupe non plus. Donc, ça veut dire que l'aventure continuera.
Mais l'Inter peut passer à côté.
L'Inter passera tout à fait à côté, oui.
Justement, parlons de l'Antwerp. L'Antwerp, le champion en titre, qu'il a remporté 4-1 face à Eupen. Ils avaient encaissé le premier but. Et puis ensuite, ils ont marqué quatre fois. Ils ont beaucoup tiré.
Jensen, il a mis les chaussures à l'envers, comme on dit.
Ouais, c'est vrai que c'était pas son...
Il a perdu le
mojo.
Je crois que depuis ses pénaltys ratés contre Molenbeek, la confiance qui est partie en même temps.
Ouais. Ça y est, le fruit Eupen est mûr. Eupen a fait ses 5 bons matchs du début de championnat, comme chaque année. Puis maintenant, ça y est, il commence à faire froid là-bas.
C'est le feuilleton de l'été, voilà. Le feuilleton de l'été qui a duré un petit peu plus longtemps.
De la Belgique. Et maintenant, tout le monde va aller à Eupen pour prendre les 3 points. Et puis Eupen va se sauver à la dernière minute. Enfin, des play-down cette saison. Donc. Mais voilà, c'est le moment de prendre Eupen. C'est la saison.
Ouais.
Elle durera jusqu'à avril, avant les play-offs. Que tout le monde en profite.
Comme tu dis, c'est chaque année la même chose. Après, leur coach allemand m'avait impressionné les premiers matchs. Mais comme tu dis, il y a les play-downs. Donc, tu as 4 équipes qui vont lutter contre la descente, contrairement à une ou deux les autres années. Ouais. Donc, il y a un moment où tu avais... Il y a un moment où tu avais 30 points. Tu dis que on est tranquille. Là, avec 30 points, tu peux encore te retrouver 15e ou 14e ou 13e et jouer les play-downs.
Oui, mais après, tous les ans, ça ne va pas passer tous les ans, cette histoire de peine qui ric-rac à la fin. L'année dernière, ça joue un but, ils se font atomiser à Bruges, ça joue un but, que je ne sais plus qu'il y a la différence. Ça ne va pas toujours passer, mais c'est toujours comme ça. Hein. On a l'impression que le club est structuré, pour si peu qu'il soit structuré.
C'est programmé pour ça.
Oui, voilà.
Il y avait la prière, je ne sais plus. Sponsor, qui paraît se retirer, les Qataris.
Ça fait déjà un an qu'ils sont retirés ou qu'ils se retirent.
C'est c'est pas clair.
Non.
C'est très opaque. Dans les Ardennes,
c'est très opaque comme structure.
C'est Aspria, je pense, ou Aspri
Aspire.
Aspire.
Ouais. Aspire, ouais,
Aspria, c'est autre chose.
Non,
c'est Aspire. C'est Aspire, c'est Qatar, c'est opaque. Et on ne sait pas ce qui se passe par là. Donc, c'est dans les fans, en plus.
Parce que Aspi,
c'est une académie.
Ouais. Ils ont envoyé les gens s'aguerrir au championnat.
Il faut dire, le Qatar avait pour objectif la Coupe du Monde qui est passée. Hein. Donc, le reste... maintenant, le PSG, c'est très intéressant. Il y a encore une chouette activation à Doha la semaine dernière avec Jordan. Bah, pour le reste, je n'ai pas l'impression qu'ils vont continuer leur sponsoring sportif et leurs trucs comme ça. Mais il y a l'Arabie Saoudite qui toque à la porte de l'autre côté, donc...
Oui, ça va être un jeu de chaises musicales, reprendre la place les uns des autres. L'Antwerp, donc, qui l'a emporté 4-1. Un mot sur l'Union, quand même, le leader, qui l'a emporté 0-4 à Saint-Tron.
Ils n'ont pas pris de but. Et ça, c'est assez nouveau, cette saison.
Ouais.
Parce que ça fait quelques semaines, je dis, si l'Union veut jouer le titre, il va falloir que l'Union arrête d'encaisser. Mais bon, pour l'instant, il marque beaucoup. Donc, et c'est vrai que là, on voit Moura, on va voir combien de temps ça dure. Moura peut être la nouvelle bonne surprise de la data. Et comme Alex le disait, moi, j'ai beaucoup de réserves sur la data parce que je pense que c'est un anti-football à la fin des fins, parce que c'est trop de rotation. Je pense que le foot, ça s'inscrit aussi dans la durée, les histoires, les liens qu'on noue avec les joueurs et les coachs. Donc, je pense que ce mouvement permanent, ça empêche ça. Il faut quand même reconnaître que qui ne se trompe pas beaucoup quoi. En termes de recrutement. Undav est parti, il y a eu Boniface, maintenant Amoura. Des clubs pourraient quand même s'en inspirer un peu. Et d'ailleurs, peut-être qu'un jour, le directeur sportif de l'Union, même s'il travaille beaucoup avec l'algorithme du président, peut-être que des clubs vont s'y intéresser.
Oui, bah, il travaille surtout avec l'algorithme de Star Lizard, et le même que Brighton.
Oui, oui.
Sans parler des prêts, le directeur sportif, pour avoir travaillé avec lui, bon, il est bien gentil, mais il est là, et tout ce qu'il doit, il reçoit les rapports, et il doit voir les joueurs, il doit les rencontrer, il doit leur faire des propositions. Tout est dirigé d'Angleterre, les choix sont faits là-bas, et puis lui, il doit juste voir, est-ce que ça peut fitter pour certaines choses, certains aspects socioculturels, plus que pour le jeu, donc, négocier l'argent.
Donc, peut-être qu'il apprend.
Mais tout le monde le voit comme le grand Messi. Mais voilà.
Non, mais peut-être qu'il apprend. C'est après, quand on travaille avec des gens de qualité, s'il travaille en étroite collaboration avec les gens de Brighton, peut-être qu'il apprend. Mais en tout cas, il se trompe très rarement sur le recrutement. Bon, ça...
Star Lizard se trompe très rarement. Enfin,
il y aura toujours
du waste dans tout ça. Mais effectivement, par rapport à d'autres clubs où ils emploient une méthode encore de scouting à l'ancienne, j'ai envie de dire, et que je trouve personnellement révolu aussi, ton seuil de réussite est beaucoup plus haut par rapport à ça. Et on le voit à Toulouse, on le voit à Midtjylland, on le voit à Nordsjælland, Brentford, Brighton. Il y a plein de clubs qui fonctionnent comme ça et qui font des résultats exceptionnels. Et Girona, par exemple, en Espagne, est un bon exemple aussi cette saison.
Girona, absolument. Un mot, Henri, sur tes rivaux.
Allons les mots, ça passe toujours.
Voilà, bah, donc l'Union est en tête. Un point devant Anderlecht, deux points devant la Gantoise. Et...
Ça doit faire très longtemps qu'il n'y avait pas deux clubs bruxellois en tête de la D1.
Ouais. Oui.
À la mi-octobre.
Siècle.
Oui, au début du siècle dernier, tu avais 4-5 clubs bruxellois en division d'honneur à l'époque. Le Racing, mais t'avais même le Crossing pas à ce moment-là. Hein. T'avais, c'était le Daring, le Crossing, Skills, l'Union, etc. Skills qui n'existe plus, qui a existé qu'une dizaine d'années. Mais Uccle aussi était là, donc ça. Pour les historiens entre nous, on peut aller chercher, mais c'est une stat assez intéressante.
Donc pour l'instant, dans le top 6, on a deux clubs bruxellois, on a les deux clubs brugeois aussi. Le club 5e, le Cercle 6e, la Gantoise 3e et le champion en titre, l'Antwerp, est 4e. On va voir ce qui va se passer lors de la prochaine journée, ce sera la 12e journée.
Il y a un classico.
Et exactement, j'allais le dire.
Est-ce qu'il va se finir ? Est-ce qu'il va aller à son terme ?
Est-ce qu'il va aller à son terme cette fois ? Dimanche 22 octobre à 18h30, vous aurez rendez-vous à Sclessin pour Standard face à Anderlecht. À noter que le Standard est actuellement 8e, belle remontée donc des hommes de Sclessin. Un petit coucou à Steve Gris qui doit être très content en ce moment. Hein, et ben on essaiera peut-être de l'avoir le lendemain du Classico pour que, avec toi Henri, vous puissiez refaire jouer la prolongation plus que refaire le match. Ce sera bien compris. Je crois qu'on a fait un tour complet de cette 11e de cette 10e journée de Jupiler Pro League, et je vous propose maintenant qu'on passe à la minute que tout le monde attend, la minute Sportimize. Alors Alex, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Tu nous as dit que tu allais nous parler de betting. Est-ce que tu peux être plus précis ?
Mais donc les paris sportifs. Donc, on le sait, en Belgique, en Europe et ailleurs, c'est un des sponsors principaux de nombreux clubs sportifs. Et on va traverser la Manche, on va aller en Angleterre. Et je me suis aperçu de quelques chiffres intéressants lors de cette saison. Donc, on le sait, en Belgique, on a la loi Van Quickenborne qui va interdire déjà le naming de paris sportifs pour des clubs. On pense au Circus Brussels Basket qui s'appelle le Brussels Basket sans son naming sponsor. Ça va s'agrandir et les paris sportifs seront tout bonnement interdits sur les maillots, à part la loterie nationale, mais ça c'est un problème politique. Mais en Angleterre, il y a la même loi et en 2025-2026, le sponsoring maillot principal sera interdit pour des acteurs du betting. Donc on se dit, qu'est-ce qui va-t-il se passer ? Est-ce que ça va diminuer et est-ce qu'ils vont les remplacer ? Ou est-ce que justement ça va augmenter ? Et cette saison, les revenus sponsoring betting ont augmenté de 12% en première ligue. Donc on passe à 56 millions de livres pour tous les clubs réunis, ce qui est déjà quand même une somme assez conséquente. C'est le budget des trois clubs wallons dont on parlait, Standard, Eupen, Charleroi. La somme est grande, il augmente, sachant que dans deux saisons, ce sera fini. Donc les clubs sont déjà en train de songer comment les remplacer, mais pour l'instant, ils ramassent encore un maximum d'argent. Et beaucoup songent déjà au sleeve sponsoring, donc le sponsoring sur la manche,
ah oui, parce
pour
que
les acteurs du betting.
Ce sera interdit sur le devant du maillot. L'avant du maillot, d'accord, mais
donc,
autorisé
là, on pense déjà aux manches, aux shorts et à d'autres options qui sont sur la table, mais pour l'instant, les clubs en profitent encore. Donc, sauf un, et c'est Luton Town, le club champêtre sympathique qui est monté. Et ils avaient une offre d'un acteur du betting dont on ne connaît pas le nom. Mais en tout cas, Gary Sweet, et c'est le CEO du club, il a tout bonnement refusé 3 à 4 millions de livres pour ce sponsoring en disant que les dommages collatéraux étaient plus grands que ce que ça pouvait rapporter à son club fraîchement promu en première ligue.
Moi, je suis d'accord avec lui. J'ai un souci avec les jeux d'argent. Donc...
Bah, le truc du betting en général, c'est le problème, c'est qu'à partir, c'est le problème de Paqueta. Je ne sais pas si vous souvenez de l'histoire de Paqueta qui a fait capoter peut-être son transfert à Manchester City, ce qui est quand même pas rien hein, dans une carrière, un transfert chez Guardiola, c'est quand même parce que le mec, il avait pris un carton et donc des amis à lui avaient parié sur ce carton. Moi, le pari, ça va. On parie sur qui gagne, qui perd, qui marque. Mais alors, quand vous pouvez commencer à parier sur je prends un carton, je prends pas un carton, je réussis ma touche, je mets un ballon en touche, après 10 minutes, j'ai perdu 10 ballons, ça commence à être très dangereux. Ça commence, ouais, c'est la porte ouverte. Ça devient très facile de... Bah, y a un joueur, il dit, bon, je vais rasser les copains, je vais rater, je prends un carton rapidement, ça n'a rien coûté à mon club.
Écoute, paix à son âme, mais Franck Berrier, on connaît son talent, on connaissait son talent balle au pied. Il y a certains matchs avec Zulte Waregem, il donnait le coup d'envoi a été donné, le ballon était chez lui, il a dégagé la balle en touche. Avec son talent et ce qu'il pouvait faire de ses pieds, c'était toujours, tout le monde a trouvé ça très suspect, il fut un temps, et on ne saura jamais la vérité, mais bon, tu as des choses comme ça, le premier ballon en jeu, première touche pour qui elle sera, etc.
Oui, donc, voilà, à un moment...
Tu as des sommes colossales qui peuvent être jouées là-dessus, mais voilà, moi je vois ça évidemment d'un œil marketing sportif et business development d'un club, c'est essentiel, et ça fait partie du microcosme, comme avant, tu avais les marques de carburant, les cigarettes, l'alcool, et il fut un temps où tu avais Saphir, Stella, Bastos, et j'en passe, qui étaient au bord du terrain de foot, et tu n'avais que ça d'ailleurs.
On parle de la Jupiler Pro League. Donc,
déjà, hein. Et vous parliez de ça, ça me rappelle une histoire. Tu parlais de la loterie nationale. En France, c'est en 85 que l'autosportif a été introduit. Et donc l'idée, c'était de dire, tout un chacun peut venir, vous allez jouer, vous cochez un N ou deux, et puis vous allez l'emporter. Sauf que le premier loto-sportif qui a été joué a été remporté par Dominique Colonna. Dominique Colonna était un gardien de but pro. Il faisait partie de l'équipe de 58 qui a fait qui était en Suède, qui était demi-finaliste. Il était remplaçant et du coup ça leur a mis un petit coup de en termes de promotion. Ils se sont dit c'était censé être accessible à tout le monde et c'était pas la meilleure publicité qu'ils aient pu faire pour le loto sportif que ce soit un ancien pro qui remporte le gros lot. Mais bon, je pense pas qu'il avait ses entrées auprès des clubs pour pouvoir manipuler tout ça.
Il y avait eu aussi des Indonésiens qui avaient parié sur des matchs de foot de division 2 en Belgique.
C'est ça,
avec
ouais.
Des scores.
Ouais, c'est comme plus on descend, on s'en rend compte, plus on descend dans les divisions, que ce soit d'ailleurs en football, en tennis aussi. Hein, il y a eu beaucoup de problèmes là-dessus, et plus les gens sont corruptibles. En tout cas, voilà, on sait que en 2025, on verra plus de sponsors sur la face avant des maillots en Angleterre.
En tout cas, des sponsors betting.
Sponsor betting, pardon, bien sûr, puisque c'est de ça dont il s'agit. Merci Alex, et on est pressé d'entendre ta prochaine minute Sportimize.
J'ai une question pour Alex.
Prochaine, oui.
Donc les sponsors maillots, quand il y a des événements particuliers, je sais pas, Bruges a joué avec un autre message sur son maillot.
En Norvège, tu parles.
En Norvège.
Oui, parce qu'en Norvège, en Turquie, en France, tu as les paris sportifs sont interdits. En France, il y a la loi Levin aussi,
alors je me demande
qui interdit toutes les Carlsberg, par exemple, avec FC Copenhague, ne pouvait pas jouer. En
c'est
France.
Ça, mais il y a cette année, je me demande, c'est pas le FC Sion. Enfin, il y a un club suisse, il me semble. C'est un club. Je fais erreur peut-être. C'est un club qui se trouve dans la poule d'un club français dont les matchs pourront pas être diffusés.
Même sponsor plus 500 comme Atalanta, Atlético Madrid l'avait avant aussi, et ça c'était du trading de crypto-monnaie je pense, et ça c'est aussi interdit dans certains pays dont la
c'est
France
ça. Je
et,
sais plus du voilà.
Donc, il y a certains
c'est pas les jeunes garçons, les young boys,
de Berne, c'est
ouais.
Possible
oui c'est ça, comme c'est Atalanta Bergame d'ailleurs ouais.
Et par exemple Anderlecht qui joue avec un sponsor comme ce week-end il y avait un maillot spécial avec un sponsor blanc sur blanc, c'est en accord avec le sponsor je trouve.
Ça dépend. Parfois, il y a des contrats qui stipulent que le maillot... Enfin, si tu as juste une promotion sur ton maillot home et away, et parfois, tu as un troisième maillot qui est utilisé à des fins promotionnelles pour tout et n'importe quoi ou que tu peux vendre d'une autre manière. Et parfois, c'est en accord avec le sponsor. Mais en général, le sponsor ne refuse pas. Il y a une autre activation en échange, quelque chose comme ça.
Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de la question pour cette semaine. Il nous reste plus que 9 minutes. Donc, on va passer à la suite. Allez, on va faire un peu de Coupe d'Europe, on va pas tout passer en revue. Je vais profiter de la présence de Thomas pour qu'on se penche sur la grosse sensation de la semaine. C'était déjà la grosse ambiance à St James Park, le retour de la Ligue des Champions à Newcastle après 20 ans d'absence. Et la défaite du Paris Saint-Germain, complètement balayée par Newcastle, 4-1. Ce qui a été frappant, bon, déjà, c'est un groupe qui est très compact. Toutes les équipes sont assez proches les unes des autres. Ce qui a été frappant, c'était la fougue des joueurs de Newcastle, le dispositif tactique mis en place par Luis Enrique, et surtout son entêtement peut-être. Il n'a pas voulu en démarrer, il n'a pas voulu en changer. Pour ceux qui n'auraient pas vu le match, il a aligné un 4-2-4. Il y avait deux joueurs au milieu de terrain, Ugarte et Zaïre Emery, ce qui était quand même assez osé, risqué quand vous allez jouer à Saint James Park devant un public qui attend le retour de la Coupe d'Europe depuis tant d'années et qui allait mettre une pression de fou sur son équipe pour qu'elle presse, justement.
Surtout que son 4-3-3 était équilibré. Mais Enrique fait partie de ses entraîneurs, un peu comme Guardiola, comme Nagelsmann, ce que j'appelle les entraîneurs stars. Et il faut se mettre aussi dans la tête d'un entraîneur. Et je pense qu'à n'importe quel niveau, on est tous un peu comme ça. C'est qu'on passe du temps sur le terrain et quand on a une idée... on a du mal à y revenir. Et si on nous le dit trop que c'est pas la bonne idée, on va peut-être s'y entêter. Enrique a vraiment cette réputation. On lui a dit ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Alors lui, il a dit vous allez voir ce que vous allez voir. Si ça marche pas, bon, patatras, ça a pas marché. Si on ajoute en plus de ça que Enrique, il a un rapport aux médias qui est très particulier. C'est un coach qui a un rapport très particulier aux médias. Il déteste les médias.
Ouais.
Et ce qui parfois peut se comprendre, parce qu'encore une fois, on est coach et parfois on passe des diplômes, on passe du temps. Et donc, nous, on est là, on est derrière des micros, c'est facile, on commente. On n'a pas la semaine, on n'a pas tout le travail qu'il y a derrière. Donc parfois, on se dit, oh, vous êtes bien gentil, mais venez prendre notre place et on va voir si vous allez faire mieux. Mais Enrique, je crois que c'était pendant une Coupe du Monde, il faisait ses débriefs sur Twitch pour vous dire... la haine des médias dont il peut faire preuve. Il n'aime pas les médias, il déteste cette idée de relais. Mais après, oui, il y avait Arsenal la veille, et quand j'ai vu le match, je me suis dit, demain, on va prendre la même. C'était le même traquenard. Un club de retour un peu populaire, comme ça, en Coupe d'Europe, une grosse ambiance. Puis voilà, on a pris la marée. Je ne pense pas que ça remette en question... la suite, parce que je pense que Paris peut aller à Milan en favori. On peut penser qu'Mbappé va revenir dans une meilleure forme, parce qu'en ce moment, elle est fantomatique.
Ouais, justement, la forme précaire de Kylian Mbappé, ça fait quelques matchs qu'il ne marque plus, qu'il est même un petit peu éteint. Il n'y a pas uniquement les statistiques. Hein. Hier, il a été... il n'a pas été très très bon. Il jouait à Rennes, le PSG l'a emporté. 1-3, il n'a pas marqué, pas fait de passe décisive. Cela dit, il aurait pu en faire parce qu'il a donné deux très bons ballons que ses coéquipiers ont copieusement vendangé, mais il a semblé être un petit peu pris en individuel. Il a été dominé sur certains moments, des choses qu'on voyait pas. Est-ce que tu penses que la préparation a tronquée
Il en a pas eu. Il n'a pas eu de prépa, donc à partir du moment où il n'a pas eu de prépa, Mbappé, il est toujours dans sa préparation. Sauf qu'il doit jouer des matchs à très très haute intensité, donc il est très fort, mais... Et quand il est pas bien, il a ce truc, il a une attitude. Quand il est pas bien physiquement, il fait partie de ces joueurs. Si on n'est pas supporter du PSG,
on a envie
de rentrer sur le terrain pour lui mettre une tarte dans la tronche. Quoi.
Ouais.
On a envie de lui dire, mais bouge-toi contre Newcastle. À un moment, il perd un ballon, il a un mètre à faire pour le récupérer et il le fait pas. Donc Mbappé est comme ça et là il est pas prêt, donc il est pas bien. Et en plus de ça, la bande à Kiki ne donne pas satisfaction. Donc Dembélé, Kolo Muani. Donc il va falloir que tout ce beau monde se mette à niveau.
Ouais.
Mais je pense que ça viendra. Je pense que ça viendra. Il faut du temps. Hein. C'est une toute nouvelle équipe. On ne le dit pas assez.
Mais tout le monde le suit à la loupe aussi. Donc là où l'année passée, tu n'aurais peut-être pas eu de critique ou l'année d'avant, cette fois-ci, quoi qu'il fasse, c'est scruté, surveillé, analysé, agrandi. Donc ce n'est pas forcément très très simple non plus.
Ouais, et puis ce match, on le revoit... Il y a Dembélé qui rate dès le début du match, il met une belle volée, elle passe juste à côté, pas de chance, mais il y a Marquinhos qui nous a fait le retour du fameux caca-culotte du début de match, enfin du match à haute intensité en Ligue des Champions, où il met une balle invraisemblable, et puis évidemment 1-0 pour Newcastle, ça devient dur.
Oui, parce qu'il fait une erreur technique sur la passe, mais même si sa passe est réussie, elle a aucun sens.
Oui,
ils sont sous pression, il remet une passe dans l'axe.
Le Marquinhos qu'on n'aime pas voir des années précédentes.
Et Dembélé, justement, il est problématique. Il a la frappe, je crois que je frappe mieux que lui.
Il n'est pas en confiance, il a son problème de finition. Mais ceci étant, moi, je serais moins dur que les autres. Parce que je trouve qu'il fait des décalages et je ne suis pas sûr qu'Hakimi fasse ce début de saison s'il n'y avait pas Dembélé, par exemple.
Ouais.
Donc, il faut voir les performances de Dembélé dans sa globalité. Tout le monde est très dur avec. Je ne trouve pas qu'il soit... Il n'est pas bon. Donc, je trouve que ça sera bien quand il sera bon. Quoi, parce que... Ne pas être bon à ce niveau-là, ça reste quand même intéressant.
J'ai l'impression qu'il est pas malin. Je pense que les changements tactiques le perturbent, ce garçon.
Ouais, c'est vrai que c'est...
J'ai l'impression, ouais.
Le prochain match, c'est Milan. Milan, il y a eu... On va peut-être terminer là-dessus. Il y a eu un épisode assez incroyable en championnat ce week-end, puisque Mike Maignan, Milan en menait. Mike Maignan s'est fait expulser. Mais l'entraîneur avait déjà fait ses changements et c'est donc Olivier Giroud qui a pris la tunique de gardien de but et qui a réalisé un match, enfin en tout cas qui a réalisé un ou deux arrêts qui ont permis de sauver le résultat, à tel point qu'il y a une folie un petit peu sur Internet avec
les maillots
floqués en son nom. Il y a eu une parodie du site Internet du Milan où il avait été rangé dans la catégorie gardien de but. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Oui, nombre de clean sheets du mois, Onana 0 oui, et Giroud 1. C'était sympa. Donc ce sera le prochain adversaire du PSG. Allez, pour finir, un dernier mot sur le champion de Belgique, l'Antwerp, qui a sombré. On rappelle qu'ils s'étaient fait balayer par le Barça. Ils ont perdu cette fois-ci face au Shakhtar. Et ils ont perdu surtout en menant 2-0 à la mi-temps, défaite 2-3. Qu'est-ce que ça vous inspire, à part que ça va être difficile pour la suite?
Un gros manque d'expérience, à ce niveau en tous les cas.
Ouais, le Shakhtar, c'est un club qui a la culture Coupe d'Europe.
Ouais.
On l'oublie, c'est un club ukrainien dans un pays en guerre qui ne joue pas à la maison. Mais il y a ces clubs qui ont l'Europe ancrée en fait. C'est comme le Real, hein, quand le Real gagne sa dernière Ligue des Champions. Mais il joue juste... on a l'impression que c'est le poids de l'histoire qui tombait sur les adversaires. Et puis paf, nous, on est le Real de toute façon.
C'est un peu comme Porto, même les mauvaises années. Porto est là et ils seront en phase de poule. Et les bonnes années, ils sortent des poules. Et...
Bah, c'est comme l'année passée, Porto dans le groupe de Bruges.
Ouais.
Début dramatique. 0-4 contre Bruges. Et puis après, ils enchaînent. Et ils passent facilement le tour. Ils se retrouvent contre l'Inter, je pense. En quart, ou en huitième, ou en quart de finale?
En huitième, ouais.
Eh bien, on verra ce qui se passera. Ce sera le 26. Cette semaine, on le sait, c'est la trêve, les fenêtres de matchs internationaux. Lundi prochain, on a Belgique-Suède. Vendredi, Autriche-Belgique. On vous souhaite du plaisir devant ces matchs, pour ceux qui préfèrent l'air.
On voit que tu n'y crois pas du tout.
J'avoue qu'en ce moment, depuis quelques années quand même, le football de club...
La trêve internationale en octobre.
Je fais ma trêve en fait, aussi, pendant ce temps-là.
C'est toujours un calvaire.
Ouais. Ne me dis pas que c'est pas la même chose pour toi. Si,
je ne regarde pas du tout. C'est deux semaines où je ne regarde pas de foot.
C'est ça.
Le foot de sélection, les qualifications,
ouais.
C'est emmerdant, il faut le dire.
C'est vrai.
Les plus petits pays qui se battent pour ce... Mais bon,
le Luxembourg, notamment.
Oui, voilà. Mais
sinon, oui, et puis avec le système de qualification, même si vous loupez vos qualifs, il suffit que vous n'ayez pas trop mal fini en Ligue Europa, vous jouerez les barrages de toute façon.
Il faut avoir envie de ne pas être qualifié.
Oui, c'est ça, il y a de plus en plus d'équipes. Eh bien, on verra ça la prochaine fois. On vous souhaite une bien bonne soirée. On espère que vous avez passé 58 minutes agréables en notre compagnie. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci Henri, merci Thomas, merci Alex et à la semaine prochaine.
Bonne soirée.
FM. qui ne me tue pas me rend fort. On pourrait en venir aux mains. Je suis à celui qui me transporte. Je reste tant que l'on me supporte. Ou je reprends seul le chemin.
Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be.
Judaïka. Une heure de musique.